Donc ce matin, je me suis réveillé, heureusement, et j'avais envie de protester. Oh, je ne sais pas si c'est l'esprit de notre moment, de protester, mais j'avais vraiment envie de protester. Et ma femme m'a dit, mais pourquoi tu as envie de protester? Je dis, mais je suis protestant. Et je vais au culte protestant. Et donc, les protestants sont ceux qui protestent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on proteste assez? Et vous savez que Luther, il en avait marre de la pensée unique de la religion de l'époque, qui ne demandait que de l'argent. Il vendait des indulgences pour construire la cathédrale à Rome. Bon, c'est bien fait, mais quand même, les gens devaient acheter leur salut. Et Luther, qui était sincère, il était moine, il dit, mais ça ne doit pas être comme ça quand je lis la Bible. Je ne lis pas que Jésus est venu, il a donné son sang, il a donné son corps, il est mort, il est ressuscité. Et il dit, voilà, il faut acheter un peu le ciel. Il faut acheter le ciel. Soit par sa propre sueur, soit par sa propre souffrance, ou soit par l'argent. Et de pousser à l'extrême, et il y avait vraiment une pensée unique à l'époque. Et donc Luther a protesté contre la pensée unique. Et je pense que c'est bien pour les protestants de protester contre les pensées uniques qui nous gavent quelquefois, par les médias et par toutes sortes de choses. On n'est pas dans le 16e siècle, et les catholiques sont les bienvenus. Les catholiques sont les bienvenus chez nous, mais j'aimerais protester ce matin. J'aimerais protester. Et vous savez, Luther, il a protesté. Il a créé un environnement. Et nous avons le système solaire. Vous avez entendu parler du système solaire. Le système avec des planètes et tout ça. C'est un environnement. Mais l'environnement du protestantisme, c'est le système sola. Le système sola. Et il y a 5 sola dans le protestantisme. Et donc, sur la porte là, c'est marqué Église protestante évangélique, membre de la Fédération protestante de France. Et donc, ce que tous les protestants croient, il y a les 5 piliers qui ont créé l'environnement du protestantisme. Et j'aimerais bien les souligner ce matin. Parce qu'on est bien protestant. Faire de l'être, casser la pensée unique. Et donc, qu'est-ce que c'est le premier sola? Ça a pris du temps pour évoluer. Je ne vais pas donner tout l'historique de ça. Mais le premier sola, on peut faire avec la main si vous voulez, mais le premier sola, c'est sola scriptura. Bravo Luther. Sola, c'est en latin, sola scriptura. C'est en latin. Et ça veut dire par l'écriture seulement. Par l'écriture seulement. Parce que c'est vrai, bon, Luther avait envie qu'on lise la Bible et que ça soit ouvert, traduit, que les gens soient éduqués pour avoir la lecture de ces textes. Et ça nous montre l'origine de tout. On n'est pas en train d'adorer la Bible, mais là, ça parle de Dieu, ça parle de Jésus. Et ce n'est pas la parole que nous connaissons Jésus. Et donc, le premier sola, c'était sola scriptura. Et donc, 2 Timothée, pour ceux qui veulent suivre, 2 Timothée 3,16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Amen. Moi, je crois en cette parole. Inspirée. C'est pas juste comme si je lis n'importe quoi. Et moi, je suis soumis à l'autorité de cette écriture parce que cette écriture est inspirée. Et dans les églises protestantes, souvent, on a une Bible devant. Parce que ça, c'est le centre de notre croyance. C'est la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est utile. C'est pourquoi nous donnons beaucoup de temps pour prêcher. Avec mes amis catholiques, ils me disent, mais nous faisons l'homélie. 5 minutes, 8 minutes, ça va. Mais nous allons chez vous. Ça dure. Et après, il y a des gens qui disent, mais moi, j'étais dans une pub protestante, ça a duré 20 minutes. Oh, 20 minutes. Ah oui, mais vous avez eu de la chance, moi, et les autres, 30 minutes. Et donc, 45 minutes. Et si vous avez la chance d'aller en Afrique, ou même en Corée, oh là là, quand je suis chez Gérard pour prêcher,
chez les Coréens, s'ils vous donnent moins d'une heure, ils sont déçus. Et donc là, hein, il faut être préparer nos oreilles. Et donc, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et donc, sola scriptura, par l'écriture seulement. On aime l'écriture. Et je vais vous donner deux autres passages. Josué 1:8. Et vous savez, quelquefois, les gens, ils vont sur les sites web pour avoir un gourou qui va leur dire comment réussir leur vie. Comment réussir ma vie? Comment avoir la réussite dans ma vie? Mais bon, on n'a qu'à ouvrir la Bible. La Bible nous donne beaucoup de clés pour réussir sa vie. Et en Josué, hein, nous lisons Josué 1:8. Je vais arriver. Il faut que Moïse meure avant que Josué arrive. Je te renomme. Josué. Donc, Josué 1:8. Hein. Donc, bien sûr, ils n'ont pas le Nouveau Testament à l'époque. Hein, c'est que le Tanaka, l'Ancien Testament. Mais le principe est pareil. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Est-ce que c'est un lien entre ma confession, mais je confesse pas n'importe quoi, je confesse ce que j'ai médité de la Bible. Est-ce que la parole est loin de ta bouche, auprès de ta bouche? Est-ce que vous avez une proximité avec cette parole? Quelquefois je prends ma Bible, hein, je sais que c'est un peu exagéré, mais j'aime donner un bisou à ma Bible. Bon, quand vous avez des téléphones portables et tout ça, ou les mobiles, c'est plus difficile, c'est moins intime. Mais il y a beaucoup de... Il faut pas prendre ma Bible, hein. C'est pas ce que vous allez trouver. Hein. Et donc, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Wow. Pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et quand quelqu'un, il me dit, oh, mais ma vie, c'est en miettes, c'est dur, c'est pénible, il n'y a rien qui marche, tout ça. Je dis, mais est-ce que vous prenez un peu de temps dans la Bible chaque jour? Oh, je sais pas. Délivre-moi de tous mes démons. Non, mais avant ça, est-ce que vous prenez vous-même un temps de prendre des vitamines, d'être rempli de grâce, de pardon, Jésus-Christ? Parce que même quand vous sentez rien avec la Bible, vous prenez l'habitude de lire la parole, ça vous transforme. Ça fait 41 ans que je lis la Bible. Je lis la Bible en entier, chaque année. Et quelquefois, je suis là, je suis en train de lire Lévitique, comment couper les sacrifices. Mais ça me transforme, même ça. Et d'autres moments, ah, Dieu m'entoure de ses bras et je suis vraiment en communion. Mais apprendre à aimer la parole, ça nous fait du bien, ça nous fait réussir dans notre vie. Et après, Éphésiens 6, 17. C'est une arme, hein, la Bible. Hein, quelquefois on dit oh paye. Les chrétiens on est des bisounours, mais on n'est pas. On est notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Bien sûr, on va pas tuer les gens. Quelle horreur! Notre culpabilité du passé, chaque fois qu'on utilise le christianisme pour tuer l'être humain ou pour opprimer l'être humain, c'est terrible. Mais nous avons une lutte. Nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre les puissances dans les lieux célestes. Hein? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les hommes. Heureusement. Amen, amen, amen. Je veux aimer les gens. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal. Les esprits du mal. Il existe les esprits du mal. On n'a qu'à allumer la télé. Les esprits de destruction, les esprits de mensonge, les esprits d'oppression, les esprits de manipulation, les esprits de mensonge. On est en lutte contre ces esprits. Quand tu te lèves le matin et une petite voix te dit « Oh, t'es nul, t'es pas comme les autres, t'es moche, blablabla », tu dis « Hey, c'est pas ce que le Seigneur me dit ». Dans la Bible, il dit « Par le Saint-Esprit en moi, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection ». Et je suis, non, allez, je refuse. Et c'est la parole. C'est, tu es en train de lutter. Et ça arrive à tout le monde. Soit on accueille toutes ces pensées négatives, toutes ces paroles mensongères, ou soit on réagit contre. Et Dieu nous donne une arme magnifique. Il y a plusieurs armes, hein, je ne vais pas faire toutes les armes de Dieu. Mais il nous donne une épée. Et il dit en verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors là, quand on gagne, grande épée, Braveheart, ça n'est pas comme un Highlander écossais, tu luttes là avec la parole dans ta bouche, dans ton cœur. Et pour moi, on peut vraiment faire la guerre contre toutes ces pensées uniques. C'est ça, la Bible te donne la possibilité de ne pas être victime des pensées uniques, parce que ça te donne la pensée de Christ. Ça te donne une unité dans la diversité. Ça, c'est vraiment le protestantisme à libérer la liberté de la pensée. Hein? Quelquefois pour le bien, quelquefois pour le pire. Mais ça nous a libérés de tous les dictateurs. Et je pense aujourd'hui, j'en ai marre quelquefois. J'en ai marre parce que moi, je veux me libérer de ces pensées uniques, de comment je peux dire, du wokisme. Moi, je le dis, hein, je ne suis pas wokiste, moi. Et c'est cette Bible qui me libère, parce qu'il y a une vérité. Et dans toutes ces pensées, je dis, voilà, la Bible dit. Et après, je vais être libéré de toutes cette pensée unique du matérialisme. Voilà, il n'y a que le matériel, il n'y a pas de spirituel, voilà, bon, la science, machin. Je ne suis pas contre la science, mais on en a marre d'avoir un média qui honore pas Dieu. Et donc là, cette Bible honore Dieu. Et même le pensée unique de l'islamisme. Bon, bienvenue, nos frères. Nous, on vous aime, on vous accueille, mais Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et si vous niez ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Et bon, ça ne veut pas dire que je suis contre vous. Je vous embrasse. Mais je suis contre tout. Oh oui, mais quand même, la Bible a été changée. Non. Non, mais arrête. Mais arrête. Et là, je veux proclamer ce matin, je proteste, sola scriptura. Sola scriptura, parce que même les églises, on est en train d'embrasser tout le monde. On embrasse tout le monde, on dit, oh mais c'est pas grave, ouais, même si le Coran dit Jésus n'est pas mort sur la croix, oh, on est tous frères. Non, c'est une contradiction, soit il est mort, il est ressuscité. Et Paul dit, si on ne croit pas à la résurrection, on est les plus malheureux des hommes. Donc si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de résurrection, on reste dans nos péchés, on reste soumis à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix et que Jésus est ressuscité. Et cette parole me donne de l'espérance. Et je veux casser cette pensée unique. Parce que ça monte aussi aujourd'hui. Alors peut-être on n'a pas le droit. Bien sûr, j'aime, je prêche pas la haine. Je prêche l'amour parce que la Bible me dit ça. Mais il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Et donc, sola scriptura, ça nous donne la vérité. Bon, ça c'est le premier. Vous avez quatre autres. Je vais être plus vite avec les autres. Calme-toi, Robert. Calme-toi. Et donc, sola fides, ça veut dire, en latin, hein, mais par la foi seulement. Ça c'était Luther un jour, il lisait Romains, l'épître de Romains, un homme éduqué à l'époque, et tout d'un coup, il lit Romains 5:1. Romains 5, verset 1. Et il tombe sur ce verset. Étant donc justifié par la foi. Waouh! Et ça, c'est le fondement du protestantisme. Justifié par la foi. Et on n'est pas justifié par les œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des œuvres après la foi. Mais on n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par des indulgences. On n'est pas sauvé par ce que nous faisons, mais nous sommes sauvés par ce que Dieu fait pour nous. Et ça nous donne une humilité. Ça nous donne une capacité d'accueil. Parce que le moment que nous faisons quelque chose, on rend Dieu un peu redevable. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est presque le paganisme. Dieu n'est pas obligé de nous faire quoi que ce soit. On reçoit par grâce tout ce qu'il a fait. Et il a donné le grand paquet. Il nous a justifiés par la foi. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est justifié par la foi? Ça veut dire, il faut juste croire que Jésus est venu, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a marché, il a fait des miracles et tout ça, et après il est mort sur une croix en disant tout est accompli, en versant son sang, en disant Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et après qu'il était dans le tombeau, et après dimanche de Pâques, il est ressuscité. Et on croit ça, même un enfant peut croire ça. Mais croire, hein, comme on dit, il faut croire avec le cœur. Il faut croire avec le cœur. Et donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Justifiés par la foi. Mais quelle libération! Je suis libéré de devoir gagner mon salut. J'ai reçu mon salut par la foi. Et après, hein, c'est acte 16:30 quand même, parce que les apôtres, ils sont allés prêcher après. Et tu sais, il y avait un geôlier, et il s'est repenti en prison devant la prédication de Paul. Et il pose une bonne question, acte 16, verset 30. Il dit ceci, il dit, c'est le milieu de la nuit et tout ça, et il pose une question. Il dit, Seigneur, quand il parle à Paul et Barnabas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bon, c'est une grande question quand même de l'humanité, c'est une question existentielle. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Hein, il faut aller à l'église tous les dimanches et donner la dîme, ça peut suivre. Il faut être, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et hein, tu sais, ça c'est tout proche, hein, c'est l'apôtre Paul, il est tout près, il vient d'avoir une vision de Jésus, tu sais. Il connaît, il est en train de créer la doctrine de l'Église, et lui, il répond, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Hein, quelle simplicité, quelle beauté de croire. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16, hein, verset 31. Allez, donc sola scriptura, sola fides. Mais la foi est aussi très proche de la grâce. Parce que si on a la foi, on est sauvé par la foi et par les œuvres. Mais ce n'est pas à cause de notre mérite non plus. On est gracié. Et même si on est mauvais, même si on est pécheur, on est gracié. Et ça, c'est un peu scandaleux quand même. Parce que on peut dire c'est trop beau, je peux pécher comme je veux, et je dis pardon, et après je suis sauvé, je suis gracié. Mais c'est comme ça, mais je dirai un peu plus après. Mais je veux souligner que la grâce est vraiment un cadeau, c'est comme si tu gagnes le loto, tu es content, tu dis waouh, j'ai gagné 1 milliard d'euros, je peux faire tout ce que je veux. Et quand tu sais que tu es gracié, c'est comme si tu es libre. Tu es libre, tu peux vivre ta vie comme tu veux, sans contrainte, surtout sans loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Parce que la loi, maintenant, est inscrite dans ton cœur par le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas une imposition. Moi, je n'aime pas dire aux gens, ça c'est bon, ça c'est mauvais, toi tu ne dois pas faire ça, toi tu dois faire ça. Moi, bon, je laisse le Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit parle. Et si, bon, dis une écriture avant de trop parler. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Sola gratia. J'arrive. 2:8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, hein, justifié par la foi, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et vraiment, ce cadeau de la grâce, hein, sola gratia. Mais les gens, même quand Paul prêchait, ils ont dit, mais est-ce qu'on doit pécher plus pour qu'il y ait plus de grâce? Parce que là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Quand ils prêchaient premièrement, les gens ils disaient ça, mais quel scandale! Et c'était une sorte de scandale des protestants, parce qu'on dit, on laisse les gens pécher, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune loi, ils font ce qu'ils veulent. Mais allez, je vais répondre un peu avec Paul Tillich, d'accord, c'est un gars qui étudiait Luther, c'était un protestant très érudit, et il a une jolie phrase que j'aime. Il dit, c'est cette grâce, et cette grâce, c'est l'incarnation de Christ mort pour toi sur la croix. C'est pas juste une idée philosophique, c'est une incarnation de la personne de Jésus. Jésus, il incarne grâce. Il n'y a pas un truc bizarre, absurde, là, une idée qui s'appelle grâce. Cette grâce, c'est la personne de Jésus, de son œuvre qui est en toi. Et il dit, c'est cette grâce qui me réconcilie avec moi-même. Il faut avoir beaucoup de grâce sur toi-même. Il y a les gens qui crucifient eux-mêmes, ils sont plus légalistes que Moïse contre eux-mêmes. Oh, je jette les pierres tous les temps contre Jésus. Tu te lapides tous les matins. Arrête de te lapider. Je te le dis au nom de Jésus. Arrête de te lapider. Jésus dit, moi, je te pardonne. Non, mais il faut un peu de lapidation. Non, arrête de te lapider. Cette grâce me réconcilie avec moi-même. Avec les autres. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le monde. Même je dirais, la vraie écologie, c'est par la grâce. D'être réconcilié avec la création. Mais par la grâce. Et bien sûr, avec Dieu. La grâce me réconcilie avec Dieu. Et donc il y a toute cette réconciliation. Et donc Paul Tillich, il dit ceci. Bon, c'est un mot un peu philosophique, mais il dit, l'éthique sera une réponse à cet amour premier. L'éthique, ça veut dire bien se comporter. Bien se comporter sera une réponse à cet amour pur. Et vous savez, ma femme est tellement gentille avec moi. Tellement gentille avec moi. Même quand... Et quand elle te caresse les cheveux et elle te fait un bon... Oh, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout dire. Mais comment ne pas répondre avec un bisou, quand même? Quel homme ne pouvait pas répondre avec un bisou quand il est tellement aimé? Et je dirais, pour nous, ça marche comme ça. On est piégé tous les jours avec la grâce. Parce qu'on reçoit tellement, on aime tellement Jésus. On doit lui donner un bisou. Hein. Quelquefois, tu luttes. Tu m'as déçu. Non, mais arrête. Grâce. Et les plus grands saints, ce n'est pas par la crainte ou par les œuvres qu'ils sont devenus des grands saints. C'est parce qu'ils ont reçu l'amour et la grâce de Jésus. Et ça, un baiser divin a jailli de toute leur vie. Un baiser divin. Et Paul, il le dit en 1 Corinthiens 15, il dit, « J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres !» Et après, il est repris, « Ah, toutefois, non pas moi, mais la grâce qui était avec moi. » Et il faut apprendre à œuvrer, à se sanctifier, à faire des choses par la grâce. Et il dit que Jean-Baptiste était le plus grand prophète de l'Ancien Testament, dit Jésus. Mais il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Incroyable, parce que nous, on a le Saint-Esprit en nous. Allez, sola gratia. Et maintenant, pour moi, j'aime beaucoup, parce qu'il y a le quatrième, c'est solus Christus. Solus Christus. Et donc, acte, alors voilà, Christ seulement, hein, solus. Je vous ai déjà donné un bon cours de latin, vous êtes parlez couramment le latin maintenant, hein, solus Christus. Et donc, acte 4, 12. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui aimeraient enlever ce verset de la Bible. Mais sola scriptura, j'y crois, donc c'est pour ça que je suis missionnaire. C'est pour ça que je prêche l'évangile. C'est acte 4, 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ah, est-ce que je peux être sauvé par Bouddha? Non? Est-ce que je peux être sauvé par... Je ne vais pas dire tous les autres, hein, c'est enregistré quand même. Et donc, mais là, ce qu'il dit ne se trouve en aucun autre. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et donc, il faut être quand même un peu obtus pour passer à côté de ça. Moi, je dirais, les gens, ouf, Jésus, mais attention ce que vous dites là. Ouf. Mais vous basez votre existence sur quoi? Votre avenir? Quand il dit le salut est là. Et avant, les gens croyaient ça en France. Avant, il y a 100 ans, les gens, ils avaient une certaine crainte de Dieu. Ce n'est pas qu'ils avaient une phobie pour Dieu, non, Dieu était amour, mais ils avaient une certaine crainte de la vérité qui dit qu'il n'y a qu'une seule chose, une seule personne qui nous sauve, et c'est Jésus-Christ. Et donc, solus Christus. Mais ce n'est pas juste lui seul qui sauve, c'est lui seul qui est tout pour nous. Parce que si vous voulez comprendre la Bible, la clé, surtout pour l'Ancien Testament, la clé, c'est de faire venir Christ dans l'interprétation de l'Ancien Testament. De faire venir Christ dans l'interprétation. Et même chacun de nous, j'ai déjà dit ça, chaque protestant, il est pape, hein, on a le droit d'interpréter l'Écriture comme nous-mêmes, mais on n'est pas seul, parce qu'on interprète avec le Saint-Esprit en nous, selon notre situation personnelle. Ça ne veut pas dire que quelquefois, ça crée des discussions. Merci Seigneur. On n'est pas dans la pensée unique. On n'est pas dans une secte. Les protestants, c'est tout sauf une secte finalement. Parce qu'il y a beaucoup de débats. Mais il y a l'essentiel. Et finalement, on garde aussi le symbole des apôtres qu'on partage aussi avec l'Église catholique. Hein, il n'y a pas que des sola, sola, sola. Il y a des symboles aussi qui définissent l'essentiel de l'orthodoxie. Et donc, on reste orthodoxe tout en ayant cette diversité et cette liberté. Et c'est tout sauf la pensée unique. Et donc, solus Christus, Colossiens 1, 15, 20. Hein, je vous fais travailler dans la Bible aujourd'hui, mais hein, Colossiens 1, 15 à 20. Et donc, Colossiens 1, 15 à 20. Il parle de Jésus. Hein, Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Jésus, wow, il est Dieu, hein? Il était là dans la création, la parole là dans le cœur de Dieu, car c'est en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. On dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Si on est ici, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour chanter, c'est pour honorer Jésus-Christ. C'est lui notre tête. Et on est tous soumis à lui. On est soumis à Jésus. Et on voit Jésus dans nos frères et sœurs, on voit Jésus dans la liturgie. Nous, on a une liturgie chantée, mais on voit Dieu dans la parole de la liturgie. On le voit dans la Sainte Cène, on le voit dans la prédication, j'espère. Mais voilà, on est là pour Jésus. On est là pour rencontrer Jésus, parce que Jésus n'est pas juste une sorte de personnage historique. Il est vivant aujourd'hui. Bon, il est invisible à nos yeux, mais il habite là, dans nos cœurs. Il est là par le Saint-Esprit. Et donc, il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, le sang de la croix. Amen. Et le dernier, ça c'était Christ. Et le dernier, tu sais, quelquefois c'est sola, quelquefois c'est solus, quelquefois c'est soli, ça dépend là, si c'est masculin, féminin. C'est un peu comme en français l'eau. Là. Et donc, soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ça c'est le dernier. À Dieu seul la gloire. J'aime beaucoup ça. À Dieu seul la gloire. Ça veut dire, on n'est pas là pour donner la gloire à un homme. Et vous allez remarquer que les protestants, on ne prie pas les saints, on ne prie pas Marie, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Marie et je crois de beaucoup dans la Bible quand je la découvre. Mais les protestants, on est allergique à la prière de toute autre personne. On ne prie pas les morts. On prie. C'est quand même un peu juif comme ça, tu vois. On est allergique parce qu'à Dieu seul la gloire. C'est lui seul. On est contre l'idolâtrie. On ne jette pas les pierres juste à une autre religion, mais je dirais, on peut avoir un amour trop grand pour l'argent, ou un amour trop grand pour sa propre personne, et tout ça. Et il ne faut pas que la gloire revienne à une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit détester d'autres choses ou démolir d'autres choses. Mais à Dieu seul, la gloire. Et ça, c'est une marque de fabrique pour nous. Une marque de fabrique à Dieu seul, la gloire. Alors là, je ne vais pas dire beaucoup là-dessus, parce que je pourrais, mais je vais juste aller dans l'Ancien Testament. Et déjà, le roi David, il connaissait ça. Lui, il était roi. Je pense que David, il a dû être beau. Parce qu'il était un guerrier, il a dû être comme, tu sais, les gars, les super-héros dans les films musclés. Il ne fallait pas discuter avec David, hein. C'est un vrai mec. Hein. Mais c'était aussi un gars qui avait le cœur de Dieu. Il était un guerrier, mais il écrivait les psaumes. Il était un poète. Et il était roi. Quand même, quand tu es roi, tu vois, il était roi d'une nation. Et il avait tout. Mais qu'est-ce qu'il dit en Psaume 115? Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et j'aime bien ça. Et même dans les lieux célestes, tu vois, on parle de ces séraphims qui couvrent leurs yeux, qui couvrent leurs pieds. Il dit gloire à Dieu, à toi seul la gloire. Pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Et toute l'éternité, d'un côté, ça se prépare à donner encore plus de gloire à Dieu. C'est notre mission, c'est de donner gloire à Dieu. Par nos vies, par nos œuvres, en recevant la grâce. Chaque fois qu'un pécheur dit, oh, mais je suis un pauvre type, mais pardonne-moi, là, ça donne gloire à Dieu. Ces sols-là, ces cinq sols-là, d'un côté, tout le but, c'est de donner gloire à Dieu. De donner gloire à Dieu. Et non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, dans gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Et j'aime bien ces deux mots. C'est hesed et emet en hébreu, mais bienveillance. Ah, c'est un amour indestructible. Seigneur, à toi la gloire, parce qu'il n'y a personne qui aime comme toi. Il n'y a personne comme toi. Dieu est amour. Dieu est hesed. Il est une alliance éternelle. Une loyauté éternelle en Jésus et à cause de ta vérité. Amour, vérité, amour, vérité. Et donc, à toi la gloire, ô ressuscité. Et donc, j'ai commencé en disant que je voulais protester contre la pensée unique. Et maintenant, vous savez pourquoi je proteste. Je suis protestant avec mon système sola. Et j'ai reçu une parole ce matin. Quand je mangeais mon porridge, incroyable. Et j'ai pensé à cette idée de pensée unique. Et je vais vous dire la parole que j'ai eue. Nous ne croyons pas à une pensée unique, mais en une personne unique. Hein? J'ai eu ça, ça m'a réjoui. J'étais en train de manger mon porridge avec Sylvain. J'ai dit, oh, Sylvain, j'ai une pensée. Et je lui ai dit ça. Ouh. Donc, je partage ça avec vous parce que je pense que c'est la beauté du protestantisme. Ça casse la pensée unique. Et donc, nous ne croyons pas à une pensée unique. Moi, je déteste une idée sectaire de l'Église. Et ça peut arriver, ça peut nous arriver, ça peut m'arriver, mais j'ai horreur de ça. J'aime bien discuter, dialoguer. C'est l'essence du protestantisme. La démocratie est venue du protestantisme. Les livres... L'éducation. Beaucoup de choses sont venues. Bon, on a partagé ça. Et les juifs nous ont légué beaucoup, bien sûr. Mais nous ne croyons pas à une pensée unique, mais en une personne unique, Jésus-Christ. Et donc, je vous invite à prier avec moi. Et si vous n'avez pas fait, donne ton cœur à cette personne unique. En disant tout simplement Amen à la fin de ma prière, silencieuse dans ton cœur. Et. Quand vous connaissez déjà Jésus, pourquoi dire « Ah, je veux mieux protester dans ma vie. Je veux mieux protester. Je veux porter mon identité protestante dans ce monde. » Parce que si nous ne protestons pas, nous serons des agneaux et des moutons. Et quelquefois, il ne faut pas se laisser dominer par juste une pensée unique qui peut s'abattre sur nous. Hein? Et donc, merci Seigneur. Et donc, sola scriptura, sola fides, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta personne. Parce que derrière toute cette théologie, il y a une personne unique. Et Seigneur, cette personne unique, c'est toi Jésus. Je crois Jésus que tu as donné ta vie pour moi. Je crois vraiment que tu Tu as pardonné mes péchés. Et je veux recevoir cette grâce du pardon, Seigneur. Et Seigneur, merci, car je crois vraiment que tu es ressuscité, que tu as une parole de victoire. Seigneur, je veux prendre cette épée de l'esprit pour vaincre mes mauvaises pensées, pour vaincre mes démons, Seigneur. Et Seigneur, je crois en toi et je veux que tu sois mon Seigneur. Oh, merci. Merci, car je veux que ma vie te glorifie. Je veux que ma vie te donne gloire. Seigneur, reçois mon cœur pour ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.